écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
Mathilde Cariou.
Des hôpitaux bombardés, des soignants débordés, des patients épuisés. À Gaza, le système médical est à bout de souffle, visé ces dernières heures encore par des tirs israéliens. Commémorés malgré la guerre en Ukraine, les habitants rendent hommage aux victimes de l'Holodomor, la famine orchestrée par Staline dans les années 30. Nous reviendrons également sur cet accord, enfin trouvé à la COP29, malgré la déception des pays du Sud. Et puis en France, ArcelorMittal suspend ses engagements en faveur du climat, tant que l'acier chinois menace d'inonder le marché. Le silence et l'horreur ce matin sur le parvis de l'hôpital Kamal Adwan. 11 personnes, dont des enfants, sont encore morts la nuit dernière dans le bombardement des urgences à Gaza. La structure de Kamal Adwan était l'une des dernières à fonctionner de manière limitée. Écoutez le témoignage de Julie Faucon, coordinatrice de Médecins Sans Frontières. Elle est à Ran Younes, dans le sud de l'enclave, où le personnel de santé est démuni face à la détresse des déplacés.
Le réseau d'électricité fonctionne grâce aux générateurs. Les générateurs doivent être approvisionnés par de l'essence. Pour vous donner une explication vraiment pratique, s'il n'y a pas d'essence aujourd'hui et qu'on ne peut pas utiliser les générateurs dans les hôpitaux, ça veut dire qu'on aura des grandes difficultés à faire tourner des blocs opératoires, à avoir un supply en oxygène. Tout le matériel biomédical nécessite aussi de l'électricité. Ensuite, de façon plus générale, pour pouvoir amener les patients à l'hôpital, il faut avoir des ambulances. Et pour avoir des ambulances, il faut qu'elles puissent avoir de l'essence. En ce moment, il commence à faire froid à Gaza, il pleut. Et pour que les structures de santé puissent travailler dans des conditions correctes pour la prise en charge des patients, il faut qu'on puisse mettre du chauffage. Et de la même façon, ces systèmes-là fonctionnent avec des générateurs. Et c'est vraiment important que les générateurs, et de façon générale, les hôpitaux puissent continuer à fonctionner. La situation est terriblement compliqué et c'est vraiment une priorité.
Des propos recueillis par Oriane Verdier. Le ministère de la Santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 44 211 morts depuis un an sur le territoire palestinien. Des frappes également au Liban, deux tirs de missiles cet après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth. D'autres sont à prévoir dans la soirée car l'armée israélienne ordonne l'évacuation d'une dizaine d'immeubles et les recherches de corps continuent dans le centre-ville. Au moins 29 personnes sont mortes hier, 67 blessées dans le bombardement du quartier de Basta. De son côté, le Hezbollah riposte avec des centaines de projectiles envoyés dans le nord d'Israël. Les sirènes ont retenti ce matin tout près de la frontière. Plusieurs chars ont été détruits et une réunion sécuritaire doit avoir lieu ce soir à Tel Aviv. Par ailleurs, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, est à Beyrouth en ce moment. Il appelle à un cessez-le-feu immédiat et au strict respect de la disposition 1701, à savoir que seuls les casques bleus et l'armée libanaise soient déployés le long de la frontière. Les premiers résultats en Roumanie. Le premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu est donné en tête de l'élection présidentielle avec 25% des suffrages. Il devance largement l'ultra-conservateur Georges Simion, pourtant bien placé dans les sondages mais qui ne se qualifie pas pour le second tour. Il arrive quatrième avec seulement 15% des voix. Au contraire, l'extrême droite autrichienne confirme sa bonne forme électorale avec un très net succès au régional de la province de Styrie. Le parti de la Liberté, FPE, a recueilli près de 35% des voix, soit le double de son score de 2019. C'est la première fois que l'extrême droite arrive en tête dans cette région. Commémorée malgré la guerre. En ce dernier samedi de novembre, l'Ukraine commémore l'Holodomor, cette famine orchestrée dans les années 1932-33 par Joseph Staline, causant la mort d'entre 3 et 7 millions d'Ukrainiens. Depuis le début de la guerre russe contre l'Ukraine, cet hommage revêt une importance toute particulière. Explication de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz.
L'Holodomor, passé sous silence par la volonté des autorités soviétiques jusqu'à la chute de l'URSS, est désormais commémoré par les Ukrainiens à plus forte raison depuis le début de la guerre, ici et partout dans le monde. À 4 heures de l'après-midi, beaucoup de foyers ont allumé une bougie en mémoire aux millions de morts de cette famine. Une cérémonie s'est également tenue avec le président Zelensky et Olena Zelenska devant le monument aux victimes ukrainiennes. Ce même jour, à la troisième conférence pour la sécurité sécurité alimentaire qui s'est tenue à Kiev, le président ukrainien a rappelé que 90 ans après l'Holodomor, chaque famille ukrainienne en avait gardé les traces et a rappelé le caractère génocidaire de cette famine. Volodymyr Zelensky et les invités de cette conférence et de la commémoration ont également dressé des parallèles entre l'Holodomor et la destruction actuelle par la Russie de milliers d'hectares de terres cultivables en Ukraine et de plus de 300 infrastructures portuaires dans le but de perturber l'initiative d'exportation des céréales ukrainiennes à travers le monde, ce qui pourrait provoquer de nouvelles famines, averti Kiev. Emmanuel Chasse, Kiev, RFI.
Et sur le front de cette guerre en Ukraine, des débris de missiles russes ont été présentés à la presse aujourd'hui, trois jours après la frappe sur Dnipro. Les services secrets ne l'ont pas formellement confirmé, mais tout indique qu'il s'agit de débris du nouveau missile Oreshnik, désormais produit en série par le Kremlin. Parfum de déception à Bakou. Les négociateurs ont enfin trouvé un accord la nuit dernière, au bout de 13 jours de négociations. Accord au rabais, estiment les pays du Sud qui militaient pour que ceux du Nord s'implique beaucoup plus dans la lutte et la compensation des effets du changement climatique, beaucoup plus que les 300 milliards de dollars par an arrachés aux pays les plus riches, nous dit Fanny Petitbon, spécialiste climat pour 350.org.
Les besoins des pays du Sud d'ici 2030 pour opérer leur transition vers les renouvelables, pour s'adapter, pour faire face aux pertes et dommages, c'est 5 à 6 000 milliards de dollars par an. Donc déjà, en fait, leur demande de 1 300 milliards, c'était vraiment une offre de bonne volonté. C'était déjà un effort monumental. Et à côté de ça, du coup, on leur offre des miettes. On leur dit que ça va être des financements, un mélange de financements privés, de financements publics, alors qu'il faut surtout des financements publics parce que les investisseurs privés, ils n'ont intérêt à cœur que les profits. Donc quand il s'agit de faire de la réponse aux impacts, l'adaptation, ça n'a pas de retour sur investissement. Donc on sait qu'il va toujours y avoir un manquement. Et puis surtout, il n'y a pas d'engagement clair à ce que la majorité de ces financements soient alloués sous forme de dons et non pas de prêts, ce qui a été la pratique ces 10 dernières années. Et malheureusement, fournir des financements climat sous forme de prêts, ça veut dire condamner des pays à un cercle vicieux de la pauvreté.
Fanny Petitbon au micro de Julien Coquel-Rouem, entretien complet à retrouver à réécouter sur RFI.fr. Pas beaucoup d'efforts donc de la part des pays riches, pas beaucoup non plus de la part des entreprises françaises. Le géant de l'acier ArcelorMittal reporte ses investissements de décarbonation prévus sur le site de Dunkerque. Dunkerque, c'est le plus haut fourneau d'Europe avec une capacité de 7 millions de tonnes d'acier par an. Par conséquent, c'est aussi l'usine la plus polluante du pays, d'où l'investissement prévu par ArcelorMittal, 1,8 milliard d'euros pour décarboner sa production d'acier. Seulement voilà, sur ces 1,8 milliard, 850 millions d'euros sont issus de fonds publics. Aujourd'hui, l'entreprise pose ses conditions. Bruxelles devra d'abord lui garantir des mesures de protection face à la concurrence chinoise. Sorte de chantage, Nathanaël Vitran, qui inquiète fortement les salariés.
L'usine de Dunkerque, c'est 11 millions de tonnes de CO2, soit à elle toute seule près de 3% des émissions annuelles de la France. Le groupe s'était donc engagé à remplacer ses hauts fourneaux au charbon par des fours électriques. Écoutez, Mathieu Gel, le patron d'ArcelorMittal France, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, sur BFM Business.
Le projet, c'est de remplacer aujourd'hui le charbon qu'on utilise par du gaz naturel, puis de l'hydrogène, et ce à l'horizon 2026-2027. C'est compliqué, mais en même temps... C'est notre métier et puis c'est la perspective de pérenniser nos activités industrielles.
Un investissement conséquent de près d'1,8 milliard d'euros, mais assuré quasiment pour moitié par l'État français. Le recul d'ArcelorMittal aujourd'hui met donc David Blaise, délégué syndical CGT, très en colère.
Il y a eu des aides publiques de l'État français à hauteur de 850 millions d'euros, sachant que le groupe a fait des milliards d'euros de bénéfices sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui... Le groupe se désengagerait de décarboner son site de Dunkerque. Pour moi, je vous le dis simplement, comme je le pense, c'est juste une stratégie du groupe d'activer son développement sur l'Inde, sur le Brésil et sur le continent américain.
Les syndicats craignent que ce renoncement ne signe à terme la fin de la production à Dunkerque, alors qu'entre emplois directs et indirects, l'acier fait vivre une famille sur 5 dans la région.
Explication Nathanaël Vitran pour RFI. Et puis c'est un retour de bâton pour les magasins Carrefour au Brésil. Le gouvernement de l'État agricole de Mato Grosso appelle au boycott de l'enseigne sur tout le territoire. Le groupe français a annoncé qu'il ne vendrait pas de viande brésilienne éoliennes en France, et ce même en cas de signature de l'accord avec le Mercosur. Les groupes Netto et Intermarché lui ont d'ailleurs emboîté le pas et annoncé la même chose après une semaine de mobilisation des agriculteurs en France. Enfin, en Espagne, un ouvrier est décédé alors qu'il travaillait sur le chantier d'une école abîmée pendant les inondations. Plus de 17 000 membres des forces de l'ordre sont toujours déployés dans la région de Valence pour sécuriser et déblayer les infrastructures détruites. Vous écoutez RFI, il est 21h10 ici à Paris.